Je crois que vraiment, Pascal a réussi avec l'aide de son équipe à créer vraiment une ambiance de convivialité, de solidarité. Ça, c'est vraiment, ça se ressent en fait entre les collègues, que tu sois effectivement dans un atelier pâtisserie, dans les fonctions support ou dans un magasin. On est tous tournés vers un seul objectif, c'est servir au mieux le client.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Il est complété d'une newsletter hebdomadaire du même nom que je vous invite à découvrir pour plonger davantage dans l'univers des sociétés à mission. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui expliquent leur motivation, leur cheminement vers la société à mission et les actions lancées depuis, mais également des auteurs et des experts qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aller vers Aix-les-Bains, avec Pascal Cantenot et Pauline Poidenot de La Panière, une enseigne de boulangerie industrielle passée société à mission en février. Alors ça fait un petit moment que je suis l'entreprise dans son cheminement vers l'entreprise à mission, et c'est un vrai plaisir de les avoir dans le podcast. Déjà parce que finalement dans l'alimentaire, je ne vous ai pas proposé beaucoup d'invités, mais aussi parce que La Panière fait partie de l'industrie. Pascal n'a aucun problème à le reconnaître, et finalement ils font partie des oiseaux rares dans les entreprises à mission en France aujourd'hui. Alors comment concilier le bon, le beau et l'industrie? C'est un peu le pari que s'est donné Pascal depuis près de 30 ans. Aujourd'hui La Panière compte 42 magasins autour de la Savoie et un peu plus de 400 collaborateurs. J'aime beaucoup rencontrer ces entreprises régionales ancrées dans un territoire qui ont conscience que leur réalité est la même que celle de leurs clients. Avec Pascal et Pauline, on est bien sûr revenu sur l'évolution de La Panière, mais également le style de management inspiré de l'entreprise libérée, ainsi que les valeurs de l'entreprise. Mais également, et évidemment, la société à mission. Alors petit spoiler, si vous souhaitez passer société à mission sans être accompagné, votre méthodologie est presque clé en main dans l'épisode. Alors, je dis bien presque, quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, tant Pascal regorge d'humanisme et d'humilité, accompagné de Pauline, qui elle déborde d'énergie et de gnaque. Et que dire de leurs coups de cœur musicaux, clairement parmi mes top 3 de l'année. Sans plus attendre, je laisse place à l'écoute.
Bonjour Pascal, bonjour Pauline.
Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, parce que ça fait un petit moment que je suis la trajectoire de La Panière comme entreprise à mission. Et c'est vrai que je trouve que les valeurs que vous portez et les démarches que vous avez lancées méritent d'être davantage analysées et connues. C'est un peu l'objet de cet épisode. Mais avant cela, quand même, une courte présentation de chacun de vous. Donc je vais commencer par toi, Pascal, donc Pascal Cantenot. En préparant cet entretien, je me suis dit que dans toutes tes prises de parole que j'ai pu trouver, elles m'ont toutes amené à la même conclusion. Tu es une personne entière. Tu as créé l'entreprise en 1993 avec ton père, en suivant une stratégie, comme tu l'as dit, de l'escargot, où La Panière compte aujourd'hui donc une usine de production à Aix-les-Bains et 42 magasins qui sont répartis sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, et j'ai même appris une stratégie à l'international, alors le proche international, puisque c'est un magasin à Genève. Mais c'est vrai que cet ancrage territorial est quand même un élément identitaire très très fort, et on y reviendra. Tu le déclarais dans un podcast début 2021, et là je te cite, « La Panière, c'est ma vie, donc j'ai tendance à reproduire dans mon entreprise ce qui m'anime à titre personnel. » Et c'est vrai que ça se traduit assez bien, je trouve, dans les démarches que tu as pu lancer, une démarche en termes de responsabilité, avec des engagements de longue date sur le bio notamment, ainsi qu'une refonte organisationnelle qui a été inspirée de l'entreprise libérée, mais on y reviendra. Est-ce que j'ai oublié des choses, ou est-ce que tu souhaiterais corriger, amender ?
Oh non, c'est parfait.
Alors Pauline Poidenot, moi je dirais que tu es une reconvertie. Tu as une formation d'ingénieur en biotechnologie. Et c'est vrai que quand on regarde un peu sur Internet, on voit plus de toi des brevets que tu as pu déposer il y a quand même quelques années, parce que tu as passé près de 15 ans dans les métiers de R&D. Et tu as ouvert un nouveau chapitre de ta vie en te reformant et en rejoignant La Panière il y a 2 ans et demi maintenant. Tu es aujourd'hui la coordinatrice des projets RSE et de la mission, et à ce titre tu as piloté le chantier hyper collaboratif, on y reviendra, du passage en société à mission. Est-ce que tu souhaiterais ajouter des choses ou corriger?
Non, c'est tout à fait ça.
Parfait. Alors, je vous propose qu'on commence par un peu d'histoire. Là, je vais faire mon bon cliché parisien. Parce que, en fait, j'ai lu il y a un peu plus d'un an maintenant, un livre qui s'appelle La France sous nos yeux, qui est vraiment excellent. Et j'ai appris, en fait, un phénomène que j'ignorais totalement en bon urbain que je suis. Ce sont toutes les boulangeries. Alors, le livre les appelait les boulangeries de rond-point, mais en tout cas, toutes les boulangeries qui sont en périphérie des villes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un phénomène qui était hyper présent sur tout le territoire français, mais que j'ignorais totalement. À tel point que j'ai fait le test avec mes collègues de l'époque. Je leur avais dit, est-ce que vous connaissez certaines enseignes qui sont assez connues en France? Et la réponse était unanime, non. Pascal, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, quand on rentre dans la panière, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'expérience client quand on rentre dans un magasin de la panière?
Alors la panière, c'est avant tout une boulangerie. Boulangerie qui a pas mal évolué au fur et à mesure des années parce que, en effet, à l'origine, les boulangeries étaient au pied des habitations dans les villes, dans les villages. Et puis, petit à petit, avec tous les trajets en voiture des uns et des autres, on a compris qu'il était beaucoup plus judicieux de se mettre sur les périphéries et sur des emplacements avec parking. Et c'est pour la raison pour laquelle les boulangeries se sont excentrées. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, au moment où certaines stations-service cédaient leur immobilier. Et ça devenait des super emplacements pour les boulangeries que personne n'aurait imaginé 20 ans avant.
Et alors, tu disais justement que ça a pas mal évolué depuis 1993. Comment est-ce que ça a évolué justement?
Ça a évolué. On est bien sûr parti de la boulangerie, du pain, de la baguette, produits phares, produits d'appel. Et puis, avec un petit peu l'évolution des comportements de la consommation, les gens se sont mis petit à petit à prendre de plus en plus de repas à l'extérieur et donc de ramener de moins en moins de pain à la maison. Et notre métier s'est tourné petit à petit vers le snacking, la petite restauration, les sandwichs d'abord et puis les pizzas, les quiches. Et puis nous, on est pas mal partis sur les salades. Et ces dernières années, les boissons chaudes, qui vont représenter bientôt quasiment 20% de notre business, alors que le pain continue sa descente et se situe guère au-dessus, un peu plus de 20% de notre business. Voilà.
En fait, quand on rentre dans un magasin à la panière, c'est une sorte de lieu de vie.
Absolument, c'est devenu en plus un lieu de vie avec le développement des espaces petite restauration assise. Parce que ça, les Parisiens connaissent ça depuis 40 ans. Mais en province, nous, on a fait le premier dans la région en 2005. Donc, c'était quand même assez nouveau de s'asseoir dans une boulangerie. Et en fait, ces boulangeries sont devenues un peu les nouveaux cafés. Parce que, historiquement, les femmes étaient... fréquentait pas trop les cafés, c'était un lieu d'hommes. Les espaces cafés, petite restauration, tea room, comme on veut, sont devenus des espaces où des femmes se retrouvaient pour prendre le café, se retrouver entre copines. C'était quelque chose d'assez nouveau, et on est devenus un peu les nouveaux cafés, en fait.
Et alors, comment est-ce que ça s'organise? Parce que le pain n'est pas fait sur place, donc il y a une usine de production. Et donc, comment ça se passe entre l'usine de production et les différents établissements?
Alors, nous, on a choisi, pour notre atelier central à Aix-les-Bains, on livre le pain cru surgelé. Le pain est décongelé pendant 24 heures dans le magasin et cuit plusieurs fois dans la journée pour avoir du pain frais.
On reviendra après sur les différents engagements que la panière a pu prendre, mais est-ce que le fait justement d'avoir une implantation principalement régionale permet aussi de n'avoir entre guillemets qu'un seul atelier?
Oui, enfin le Techniquement, je pourrais faire plus de kilomètres pour livrer et aller à l'autre bout de la France sans problème. C'est pas le. Moi, j'ai été marqué par certains collègues qui se sont développés beaucoup plus vite que moi qui ont eu un petit peu des retours de manivelle dans le sens où ils ont eu du mal à suivre leurs magasins, à suivre leurs équipes, à les former et c'est devenu un vrai frein et certains ont perdu leurs affaires. Donc moi, quand j'ai commencé, je me suis dit je vais faire un magasin. J'ai pas pensé au deuxième quoi. Très clairement, je voulais réussir un magasin, voilà. Puis le premier a fonctionné correctement, puis tout de suite on m'a dit oh, ouais, on fait un deuxième. Puis de toute façon, je suis une nature d'entrepreneur et je me suis pas posé la question. Et j'ai commencé à mettre le doigt dans un engrenage. Mais voilà, le fait de voir certains collègues aller vite, voire trop vite, ça m'a dit bon. Et puis aussi une question de moyens financiers. Je suis pas parti de zéro parce que je suis parti avec mon père, mais ce que j'investissais, fallait que je l'emprunte et accessoirement que je le rembourse, quoi.
Tu le disais, hein, il y a pas mal de concurrents qui sont à, enfin, donc toi, t'es à 42 établissements. Il y en a qui sont à 200, plus que ça même, et qui sont implantés partout en France. Toi, t'as fait le choix de rester avec une implantation quand même très régionale. Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. Déjà la première, moi quand on a repris une boulangerie avec mon père, une petite boulangerie industrielle, c'était le point de départ. Je cochais aucune bonne case. J'étais le fils à papa, j'étais jeune, j'avais fait une école de commerce, j'étais pas boulanger et je me suis mis dans une sans mauvais jeu de mots, mais dans un pétrin assez compliqué et du coup j'ai passé plusieurs années à essayer de me sortir de ce pas hyper compliqué pour moi et de faire quelque chose. Donc pour moi mon premier objectif, ce qui m'obnubilait, ce que j'avais en tête, c'était d'avoir une entreprise avec des gens qui travaillent avec et pas contre moi, voilà. Et du coup, j'ai toujours conditionné le développement de l'entreprise aux gens que j'avais avec moi et leur capacité à faire, en fait. C'était quand même le point de départ et je pouvais pas aller plus vite que la musique. Les équipes, les aspects financiers, j'en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai pas des moyens non plus d'investir. Il fallait que je prouve aux financiers, aux banques, que j'avais une rentabilité, que j'étais capable de rembourser. Donc ça, c'était quand même le deuxième régulateur. Le troisième, je voyais bien que quand même, c'est des établissements qui sont ouverts 7 sur 7, de 6h à 20h. Et en termes d'encadrement et de suivi d'équipe, c'est quand même compliqué. Et si les équipes d'encadrement ont pas 200 ou 300 kilomètres pour aller voir un autre magasin et passer le quasi-totalité de leur temps dans les transports, c'était mieux de se développer en escargot autour de chez nous.
J'avais lu dans un ouvrage qui est sorti, je crois, l'année dernière sur le management libéré, il y avait une étude de cas sur la panière, justement. Je crois que c'est toi qui racontais cet épisode où tu disais, hein, tu cochais toutes les mauvaises cases et ça a été effectivement très, très compliqué. Les premières années, je crois que il y avait même une séquestration, etc. Donc, c'était quand même... t'en es revenu, et bien heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même cette phase assez forte de lutte contre toi, en fait, contre ta personne à l'intérieur de l'entreprise.
Clairement, et heureusement, moi, mon père m'aurait pas soutenu moralement. J'aurais jeté l'éponge. Heureusement, je l'ai pas pris pour moi parce que ils se sont ligués le jour de mon arrivée, en fait, contre moi. Donc je me suis dit, c'est pas Pascal Cantenot qui est en cause, c'est le nouveau patron, comme je disais, qui coche toutes les mauvaises cases. Donc, j'ai dit de toute façon, pas le choix, il va falloir faire avec, quoi.
Et alors, justement, comment est-ce que tu as fait avec? Parce que tu disais, moi je voulais trouver des équipes qui travaillent avec et pas contre toi. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver un système qui te permette d'avoir des équipes qui travaillent avec toi dans un... En plus, bon, c'est vrai que pour avoir un de mes neveux qui a travaillé dans une enseigne concurrente, je sais que le management est généralement assez féroce quand même dans ce genre d'enseigne-là. Comment est-ce que toi, tu as réussi à créer une autre organisation, une autre manière de faire pour que ça se passe de manière un peu plus apaisée?
En fait, je sais pas trop, pour être tout à fait franc. Déjà, d'avoir des gens qui travaillent avec, c'était déjà des gens qui partagent mes valeurs, mes convictions. Et petit à petit, j'ai quand même... j'ai réussi très clairement à faire partir les gens qui étaient contre tout, hein, donc mais j'ai mis un peu de temps parce que ça s'est pas fait, on pouvait pas faire ça comme ça, c'était des personnes, quoi, c'est pas de la marchandise, et puis petit à petit à montrer à un certain nombre de personnes que j'avais un projet, que j'avais des valeurs et que il y avait un parcours, il y avait des choses à faire ensemble. En étant proche d'eux, en étant attentif à ce que aussi ce qu'ils attendaient de l'entreprise, petit à petit, de créer un groupe de personnes de plus en plus important qui partageaient mes valeurs et mes convictions, quoi.
Et justement sur cet aspect-là de partager tes valeurs et tes convictions, est-ce que toi t'as mené des chantiers particuliers? Est-ce que tu menais des actions? Tu communiquais? Parce que c'est en soi c'est toujours très compliqué. Hein. On a envie effectivement en tant que dirigeant d'entreprise que ses équipes partagent ses valeurs et ses convictions, mais surtout que là c'est quand même assez éclaté. T'as pas mal de magasins, donc des équipes qui sont en plus des équipes avec des profils différents, etc. Donc comment est-ce que t'arrives à communiquer toi ces valeurs et ces convictions?
Oh, c'est un peu une colle, ça. Hein. C'est un peu une colle. Pauline, elle va m'aider, je sens.
Oui. Moi, je suis plus récente dans l'entreprise. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi. Comme dit Pascal, c'est difficilement tangible, ce genre de choses, mais je crois que vraiment, Pascal a réussi avec l'aide de son équipe de... créer vraiment une ambiance de convivialité, de solidarité. Ça, c'est vraiment, ça se ressent en fait entre les collègues, que tu sois effectivement dans un atelier pâtisserie, dans les fonctions support ou dans un magasin, on est tous tournés vers un seul objectif, c'est servir au mieux le client. Et ça, c'est très clair, c'est affiché très clairement. Enfin, c'est pas affiché, c'est vécu, c'est incarné. Et on est vraiment là pour accueillir le client dans une ambiance chaleureuse, le servir avec des produits frais, de qualité. Et en fait, c'est assez naturel que toute l'équipe se met, en tous les cas, partage des moments pour essayer d'aller vers cet objectif-là. Et je pense qu'il y a une notion d'exemplarité, clairement. Je pense que quand l'équipe dirigeante est exemplaire sur certains aspects, effectivement, de convivialité, comme je disais, d'engagement pour ce qui est beau, ce qui est bon, ça fait partie de nos valeurs. On est attentionné entre nous, envers notre client, on est performant, tout ça, c'est nos valeurs, on les a écrites tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment, prendre aussi le temps de partager des moments de vie. Moi, j'ai été assez surprise en arrivant 2-3 fois dans l'année. On se retrouve tous, les ateliers de production, les magasins. On va faire une randonnée tous ensemble. Et c'est pas forcément des moments où on va bosser entre guillemets. C'est des moments où aussi on prend le temps de se parler, de se dire qu'est-ce qui a bien marché cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi. C'est pas grave, on avance. C'est aussi la notion du droit à l'erreur. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une certaine convivialité qui fait qu'on se sent bien On est engagé pour le beau et le bon. Donc, le bon, c'est facile, quoi. Dans un atelier de production, dès lors que Pascal va mettre à disposition des équipes, ben, des équipements qui sont performants, il va s'approvisionner en matières premières qui sont de qualité, ben, forcément, ça donne envie aux pâtissiers, aux boulangers de faire bien les choses, quoi. On n'est pas en train de faire des baguettes avec de la poudre, des scampettes, des additifs ou des conservateurs. On le fait dans les règles de l'art. Donc, je pense que, voilà, d'incarner aussi à travers ce qu'on fait, ces valeurs du bien manger. Et puis le beau, moi j'ai été vraiment épatée. Pascal a beaucoup de goût, que ce soit dans ses magasins ou dans les bureaux, c'est des beaux endroits, c'est des beaux lieux. Et ça, la culture du beau aussi, c'est important pour se sentir bien. C'est bête, mais dans les bureaux, c'est clair, il y a des belles plantes, on se sent bien traité quelque part. Donc on sent effectivement faire partie d'une tribu qui prend soin les uns des autres. Et puis du client, bien entendu, aussi dans les espaces de restauration, c'est des endroits cosy, c'est pas surchargé, c'est plutôt vraiment, c'est joli, c'est simple, et c'est à l'image du dirigeant, donc... Voilà, c'est comme je disais, c'est pas vraiment, c'est difficile à expliquer effectivement, mais ça transpire en fait à travers la manière de travailler et les lieux où on travaille.
C'est déjà quand même des éléments assez tangibles, hein, ce que tu as donné pour le coup, donc ça permet de donner quelques éléments quand même assez clairs. Il y a quelque chose qui m'a frappé et j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. C'est cette notion de s'inspirer du management libéré. Parce que alors je l'ai pas dit, hein, mais vous êtes quoi, à peu près 400 maintenant aujourd'hui, hein, c'est ça?
Ouais, un petit peu plus, ouais.
Un petit peu plus de 400, donc c'est quand même, voilà, c'est pas une petite PME, hein, c'est quand même 400 personnes sur 43 sites, si on compte l'atelier de production en plus, ça fait quand même pas mal de monde. Si on regarde le chantier lié à la restructuration de l'organisation en interne, en s'inspirant de l'entreprise libérée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce cheminement, comment ça t'est venu, comment t'as mis en place, pourquoi?
J'ai eu l'occasion de rencontrer Isaac Guetz, l'auteur du livre Liberté et compagnie. J'ai été interpellé parce que je me suis modestement reconnu dans pas mal de choses et je me suis dit mais en fait c'est déjà ce qu'on fait dans plusieurs endroits de l'entreprise. C'est quand même de la confiance, l'autonomie, le droit à l'erreur, j'en passe, sont quand même, c'est quelque chose qui est ancré chez nous, Et déjà, on a un réseau de magasins qui travaille sur ce mode de fonctionnement. On n'est pas dans le flicage, on fait confiance aux gens. Et moi, personnellement, je passe assez peu dans les magasins, voire même très rarement. Il y a des responsables. Ben, le jour où je passe, je préviens parce que je veux pas que la petite responsable qui est un peu nouvelle se sente pris au piège un matin où c'est pas tout à fait comme elle aurait aimé. Et voilà. Et ensuite, on fonctionne depuis pas mal d'années assez bien avec le réseau magasin, mais j'ai rencontré des difficultés d'organisation avec les services support, avec la prod, et je comprenais pas trop pourquoi on butait sur la transmission des valeurs, enfin voilà. Et je me suis dit tiens, en essayant de conceptualiser un petit peu plus mieux les choses, de se faire aider. Ça va participer à nous aider à organiser le siège, les équipes support et l'encadrement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé avec un des disciples d'Isaac Guetz qui s'appelle Alexandre Gérard. On s'est lancé dans un parcours de management sur quasiment, bon, il y a eu le Covid là au milieu qui est quasiment duré 2 ans on a avec un groupe de volontaires bien sûr, hein, c'est ça le jeu, hein, on a fait une première journée que Alexandre appelle la journée déclic, hein, donc on a réuni, on avait invité 25 personnes. Et puis, ben, sur les 25 personnes qui ont participé à cette journée des clics, il y en a une quinzaine qui ont dit, ben, moi, je suis partant. Je suis partant pour faire ce parcours. Moi, en tant que dirigeant, j'ai dit aux gens, ceux qui sont pas partants, ça ne changera en rien leur contrat de travail. Je me suis engagé devant tout le monde en disant que voilà, ils étaient totalement libres de participer ou pas. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans un parcours sur 7 journées qui nous a fait progresser. Et je crois qu'il n'y a pas une personne qui m'ait dit à l'issue de ce parcours. J'ai progressé dans ma vie perso, quoi. Je suis pas pareil. Je vois les choses différemment. Ça m'a considérablement déjà aussi aidé à titre personnel. Voilà.
Et maintenant le petit caillou dans la chaussure que t'avais identifié au niveau des fonctions support et du siège, il a disparu.
Oui, franchement, alors. C'est pas un long fleuve tranquille, hein.
Le management n'est jamais un long fleuve tranquille.
Qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, ça nous a donné de la méthode. On manquait cruellement de méthode. Voilà, nous, avec Catherine, on fonctionnait toujours à l'intuition. On se parlait. Tel truc a pas marché. Ok, on va peut-être faire comme ci, comme ça. Bon, mais enfin, quand on commence à avoir un peu de monde, si on rajoute un peu de méthode là au milieu, c'est pas gênant, quoi. Voilà.
Il y a un élément qui est assez central dans le développement de la panière et j'en parlais un petit peu en introduction, c'est justement ces différentes démarches engagées que t'as pu porter assez tôt, et notamment une démarche sur le bio. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est en soi, on n'a pas forcément, en plus, là, encore une fois, je vais lancer des énormes clichés, on n'a pas forcément cette image-là de la boulangerie industrielle. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu t'es dit assez tôt, parce que le bio, je crois, c'est 2009, pourquoi est-ce que tu t'es dit, ben, moi, j'ai envie qu'on se distingue ou on se lance dans des démarches plutôt responsables, plutôt engagées?
Avant de répondre directement à cette question-là, le point de départ quand même, les deux marqueurs de la création et du développement de la panière, c'était quand même la qualité des produits. Enfin, j'ai toujours été sensible à la qualité. Mon père, quand il était meunier, aidait ses clients artisans boulangers à monter en qualité pour certains pour survivre, parce que la grande distribution se développait dans certains cas avec une qualité supérieure à eux. Donc voilà, la qualité, c'était quand même quelque chose qui était présent. Le deuxième marqueur, c'était une certaine des boulangeries organisées, et je n'ai pas peur du mot industrie. J'ai pas peur du mot industrie, parce que pour moi, industrie, d'abord, ça veut dire quantité. Ça veut dire quantité et ça veut dire organisation. Alors le bio là-dedans, ben pour moi c'est dans la démarche qualité. C'est sûr que à la maison j'ai une épouse et puis mais aussi ma maman était très sensible à la qualité des produits et achetait du bio depuis longtemps. Dans la démarche qualité matière première, on a beaucoup travaillé sur les farines. Il y a eu la culture raisonnée contrôlée, enfin il y a eu pas mal de différents labels et le bio aussi était là. Et il y a un moment, j'ai rencontré un meunier des Hautes-Alpes avec qui on s'est bien entendu et avec qui j'ai développé une gamme de tous les pains spéciaux en bio avec un rapport qualité-prix qui était acceptable. Voilà.
Parce que en plus, ça c'est un point qui est assez important, c'est que je crois la quasi-totalité des fournisseurs, qui sont presque des partenaires en fait, sont de très longue date.
Oui.
Et sont tous dans un rayon, je sais pas, ça doit être allé 100-150 km.
Oui. Oui.
Et ça c'est pareil, il y a une raison particulière, parce qu'en soi tu pourrais avoir une démarche beaucoup moins vertueuse entre guillemets. Hein, mais.
Alors déjà, moi je me suis dit. Depuis le départ, mes fournisseurs risquent d'être mes clients. Donc, voilà, on développait et c'était évident pour moi d'essayer de travailler en local quand on peut, parce que il y a quand même un certain nombre de fournisseurs avec qui on travaille depuis 30 ans. Ils sont pas 50, mais c'est vrai que c'est des PME locales qui sont plus ou moins des copains. Et je trouve que humainement, enfin moi, ça me touche parce qu'on a un bout de notre histoire ensemble.
Il y a un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, que ce soit par toi, Pascal, mais également par Pauline, c'est le mot de valeur. Et tu disais tout à l'heure, Pauline, que ça, c'est dans nos valeurs. Comment est-ce que vous avez travaillé sur vos valeurs, justement? Comment est-ce que vous les avez formalisées?
On s'est fait aider pour questionner un peu toutes les équipes. Il y a eu des tables rondes faites au sein de vraiment grande majorité des gens ont participé à la définition de ces valeurs.
Et ensuite, un gros travail pour bien les communiquer aussi, les afficher. Vous allez dans n'importe quel magasin panière, vous allez dans l'arrière-boutique, entre guillemets, vous trouverez toujours les valeurs. Il y a même des boutiques où elles sont même affichées dans les toilettes des salariés. Donc comme ça, on les a toujours, toujours sous les yeux. Et puis au siège et dans les ateliers de production aussi, elles sont affichées en grand et je pense qu'elles résonnent vraiment bien ces valeurs.
Et alors là pour toi Pauline qui est justement arrivée après que le chantier ait été fait, parce que c'est toujours compliqué en fait cette partie-là d'arriver à transmettre des valeurs aux nouveaux arrivants, parce qu'en fait c'est très simple entre guillemets, une fois quand on travaille ces valeurs avec les personnes présentes etc, elles les incarnent, elles les vivent, elles savent à quoi ça correspond, c'est parfois un peu difficile à les transmettre aux nouveaux arrivants. Donc toi Pauline, c'est quoi ton expérience, comment est-ce que tu as ressenti les valeurs, comment elles t'ont été communiquées?
Ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment dans la vie quotidienne en fait. Quand tu arrives à la panière, je sais pas, il y a une espèce de convivialité, comme je disais tout à l'heure, que ce soit dans les réunions, au café, tu te sens vite partie de la famille. Les gens sont toujours là pour filer un coup de main. Moi, j'aime bien parler avec les gens des ateliers, le chef pâtissier, boulanger, ils me disent allez viens, descends dans l'atelier. Je vais te montrer, et puis on passe un moment ensemble. Enfin, il y a c'est vraiment dans le quotidien, en fait, je dirais que il y a une proximité. Et je pense que on en revient à cette notion de proximité dont on a parlé un petit peu au début quand tu as interrogé Pascal sur pourquoi est-ce que finalement il s'est restreint à la zone alpine. Mais je pense qu'elle est super importante, cette proximité géographique. Les gens se croisent, les gens se voient. Moi, je vais une ou deux fois par an, je fais une tournée des 40 magasins pour aller voir les responsables, papoter autour d'un café, parce que je m'occupe un peu des sujets RSE, des sujets déchets. Donc, c'est du concret. Et je trouve que voilà, les rencontres, les conversations sont faciles. Et puis surtout, moi, à chaque fois que j'ai une difficulté, j'ai toujours mon voisin pour me dire « Viens, je vais t'aider, j'ai un moment, si tu veux, on se prend une heure. Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble ?» Et vraiment, cette entraide, moi, ça m'a vraiment, vraiment agréablement surprise. Donc voilà, ces valeurs, en fait, elles sont vécues tout simplement et partagées dans le quotidien.
D'accord. Alors je vous propose qu'on passe à l'entreprise à mission. Hein. C'est quand même, le thème phare de ce podcast. Alors déjà, pour commencer, pourquoi avoir choisi de devenir entreprise à mission ?
L'idée de départ, c'était de trouver un label pour qu'on formalise un certain nombre de choses qu'on faisait déjà. Parce que nous, notre culture, on est dans le faire et pas dans le dire, en fait, parce que c'est comme ça, historiquement. Et moi, je me suis fait plusieurs fois interpeller par des salariés dans la boîte en me disant « Non, mais attendez, vous faites ci, on fait ça, ils sont fiers d'un certain nombre d'actions qui sont en place depuis des années, mais ils me disent « Vous dites rien, vous dites rien. » Et je me suis fait interpeller, vous ne faites pas votre boulot, quoi. Et les salariés voient bien qu'il y a certaines choses qu'on fait, puis des collègues à eux, ils ne le font pas. Voilà. Donc, quand Pauline est arrivée, c'était une des missions que je lui ai confiées. J'ai dit, Pauline, il va falloir qu'on dise un peu les choses, qu'on les formalise. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on benchmark un peu, regarde qu'est-ce qui existe. Et tous les deux, on s'est dit, on connaissait ni l'un ni l'autre la loi Pacte, l'entreprise à mission. Et on est parti là-dessus. Et puis quasiment ensemble, par des lectures, on a trouvé ça et on s'est dit, je me sens assez à l'aise avec ça, ça me parle. Et c'est moins contraignant que des labels des Bicorp et autres qui sont quand même des labels internationaux. Là, on a le mérite d'avoir une loi française récente, donc on est parti là-dessus. Voilà.
Ouais, pour compléter, je pense qu'il y avait cette notion de formalisation, d'ancrer les choses effectivement un peu dans la pierre, des choses que Pascal faisait depuis longtemps, pour pouvoir mieux le dire, notamment entre nous, aux nouveaux arrivants et puis aux clients. Et puis, il y avait aussi, je pense, l'idée de passer la seconde même, en fait. Passer la seconde sur pas mal d'engagements en laissant plus d'initiatives de la part des collaborateurs. Pour vraiment leur montrer, voilà, si toi aussi tu as une idée, tu peux y aller et tu peux effectivement faire avancer les choses à ton échelle. Donc, au-delà de la formalisation, il y avait aussi une notion de pouvoir embarquer encore plus les gens qu'on ne le faisait jusque-là. Et comme dit Pascal, c'est vrai que des labels, il y en a beaucoup, label Lucie, Bicorp. Alors, vous parlez de Bicorp à des gens ici, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, enfin, que ce soit un de nos clients ou quelqu'un. C'est vrai qu'en province, c'est peut-être un petit peu moins connu. Et puis, comme dit Pascal...
Pas non plus universellement connu à Paris.
Non, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ici, ça ne faisait vraiment pas écho. Et je pense que ce qui nous a plu dans cette loi Pacte et dans l'entreprise à mission, c'est cette liberté, en fait, qu'on avait de pouvoir se dire, OK, on peut le faire à notre manière. Okay, et ça va vraiment refléter notre raison d'être, nos engagements. On peut l'écrire, on peut le faire à notre manière et finalement sans trop de contraintes. Bien sûr qu'il y a les audits, etc. Mais on se voyait bien le prendre en main. Il n'y avait pas besoin de passer par un organisme certificateur avec des étapes à franchir, etc. Je trouve que ça a laissé une certaine souplesse. Et du coup, de ce fait-là, comme on peut mieux s'en emparer, c'est mieux incarné.
J'avais pas du tout estimé l'aspect on communique pas assez sur ce qu'on fait alors qu'on fait plein de choses. Alors j'ai appris que ça avait un nom, ça s'appelle le greenwashing. C'est les entreprises qui font beaucoup de choses mais qui ne communiquent pas sur ce qu'elles font.
Beaucoup choses.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'en plus ça doit pas mal résonner avec d'autres entreprises et je pense à pas mal de PME parce que c'est vraiment les PME, les ETI françaises souvent ont cette culture du faire et pas forcément du dire et donc on se retrouve avec beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de choses mais qui effectivement ne communiquent pas forcément dessus et c'est intéressant que vous soyez dit une entreprise à mission peut répondre à cet écueil là et peut répondre aux interpellations des salariés en interne. Alors après, si on regarde un petit peu ce qui est intéressant, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je souhaitais échanger avec vous, c'est que la Panière a cette particularité d'être multisite. Et souvent, en fait, les entreprises qui sont passées société à mission, dans la grande majorité, sont des entreprises qui sont monosites. Il y a juste un siège, et puis c'est à peu près tout. Il y a peut-être un autre site, mais pas beaucoup plus. Donc, comment est-ce que vous avez construit la mission en étant aussi déployé sur le territoire alpin?
Déjà, dès le début, on s'est un petit peu posé la question avec Pascal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un appel à un cabinet de consultants pour nous aider ou pas? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Et puis assez vite, on s'est dit, on va essayer de le faire nous-mêmes, d'autant plus que j'étais quand même un peu embauchée pour ça, j'avais le temps et que je me sentais en tous les cas les épaules de mener ça. Et puis, deuxième chose, on s'est dit, il faut écrire une raison d'être. Le plus simple, ce serait sans doute que le comité de direction prenne une journée pour l'écrire et puis ensuite on informera les salariés. Mais maintenant, ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle. Vous avez bien compris que ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait à la Panière. On s'est dit plutôt, on va aller sonder un peu tout le monde, savoir pourquoi tout le monde bosse ici. Et c'est vrai que de ce fait-là, on s'est dit non, il faut que ça soit collaboratif. Alors, oui, on est multisite, mais comme on est un multisite sur, on va dire, un cercle de 100 km de diamètre, c'est faisable en fait, parce que les gens, moi je suis allée à leur rencontre, on a fait des tables rondes dans des magasins, que ce soit du côté d'Annemasse, que ce soit du côté de Chambéry. Ensuite, les autres ont réussi à venir à Aix-les-Bains parce que le siège est assez central. Donc finalement, et puis les gens, vous savez, les salariés, ils sont contents hein, lorsqu'ils sont invités à venir un petit peu parler de l'entreprise, de où est-ce qu'on va, de qui on est. Ils sont plutôt flattés et contents de participer à ce genre d'événement. Donc, ils trouvent toujours une ou deux heures dans leur journée pour venir et se déplacer éventuellement pour venir participer. Donc, on n'a eu aucun mal. Et puis, je pense que, comme ça faisait déjà, comme disait Pascal tout à l'heure, ça faisait déjà 2-3 ans aussi qu'il y avait cette démarche d'entreprise libérée. Les gens commencent aussi un petit peu à comprendre que, ben oui, ils ont droit d'avoir la parole à certains sujets, qu'on les y invite. Donc, il y a une certaine souplesse aussi qui s'est mise en place. Les gens, entre guillemets, ont l'habitude et sont toujours présents quand il s'agit, en tous les cas, de faire avancer l'entreprise. Donc, ça n'a pas du tout été une difficulté, le fait qu'on soit multisite, finalement.
Et alors, tout à l'heure, tu disais, oui, le label Bicorp, ça parle pas du tout chez nous. Je suis pas sûr que l'entreprise à mission parlait beaucoup plus non plus. Donc, comment est-ce que vous avez communiqué auprès des équipes? Vous leur avez dit, ouais, on va devenir société à mission, travailler sur notre raison d'être.
Oui, c'est vrai que c'était nouveau pour beaucoup de monde, nous les premiers, et je pense que y a eu une phase où nous déjà il a fallu qu'on monte en compétence sur le sujet. Moi j'avais fait une formation qui s'appelle Leader à mission, organisée par la communauté des entreprises à mission notamment, qui m'a bien aînée, qui m'a donné un bon élan. Et puis ensuite c'est de la pédagogie tout simplement, c'est-à-dire que moi j'ai organisé une douzaine de tables rondes avec les salariés de tous les métiers, et donc l'idée c'était qu'à chaque début de table ronde, ce soit Pascal qui introduise la table ronde pour montrer que c'était quand même une étape pour l'entreprise, que c'était la direction qui souhaitait avancer. Et puis ensuite, il me laissait la main, et puis effectivement, je prenais quand même 10 minutes pour un petit peu expliquer le contexte, pourquoi on y va, comment on y va. Et ensuite, s'en suivaient 4 questions. Très simple, pour vous, c'est quoi la panière? Ensuite, qu'est-ce qui vous rend fier ou heureux de travailler à la panière? Ensuite, c'était quel monde souhaitons-nous contribuer à construire? Et puis, comment? Et donc, voilà, c'est 4 questions un petit peu fil rouge que j'ai posées pendant 6 mois à travers cette douzaine d'ateliers d'intelligence collective. Et en fait, et c'est là qu'on va reparler des valeurs et du fait que les gens étaient hyper contents de parler à cœur ouvert de qu'est-ce qui me rend fier d'être ici. C'était assez émouvant. Moi, je dois dire que j'ai été assez, assez émue à travers ces ateliers de voir des gens, ça faisait très longtemps qu'ils bossaient là, de pouvoir parler de la panière comme une famille en fait, et ça c'était chouette. Donc ça a été des beaux moments. On a organisé ça aussi avec des partenaires, des gens avec qui on travaille. Donc on avait organisé 2 journées, parce qu'ils ont été quand même une 50aine à venir, où on leur a fait visiter les ateliers. Et puis ensuite, je leur ai posé exactement les mêmes questions. Pour vous, c'est quoi la panière? Qu'est-ce qui vous rend heureux de travailler avec nous? Et on avait invité du banquier jusqu'à l'association pour qui on donne un petit peu d'argent, qui s'occupe d'enfants, les personnes qui nous aident à construire les magasins, les agencer, et puis les fournisseurs de matières premières. Enfin, il y avait vraiment tout le monde était là, les élus même. Et pareil, ça a été des belles journées.
Il y a juste une petite chose à rajouter. C'est vrai qu'on a, comme dit Pauline, on a invité pas mal de gens. Et c'est la première fois que, quand on invite des gens, 100% viennent.
C'est vrai.
Alors là, j'étais hyper content, hyper fier, mais alors estomaqué. Ouais. Parce que notre démarche intriguait quand même. intriguait en disant qu'est-ce qui va se passer? Donc on a fait un truc convivial, bien sûr, hein, Pauline l'a expliqué, et ça se finissait par un petit cocktail, et c'était super. Mais je sais plus combien de chefs d'entreprise, de gens que je connais, ils disent, est-ce que je peux venir avec machin, est-ce que je peux venir avec truc, etc. Donc ça a vraiment suscité beaucoup d'intérêt.
Ouais.
Et Pascal, comment est-ce que tu... C'est quoi les mots que tu utilisais dans ton discours introductif, si je puis dire, pour expliquer la démarche?
Je disais que d'abord qu'on n'était pas dans la culture du dire et qu'on était plus dans la culture du faire et qu'on faisait déjà pas mal de choses de mon initiative à moi, chef d'entreprise, et puis aussi à mes proches collaborateurs, mais que ça s'arrêtait là et que ça me suffisait pas et que j'essayais de trouver un moyen pour que les gens de l'entreprise s'approprient certaines initiatives et deviennent moteurs et animateurs, en fait. J'en avais assez que ça vienne toujours d'en haut le fait du prince, quoi. C'était ça l'idée de départ.
Donc là, vous venez de tuer mon business, parce que là maintenant, il y a une méthode pour mener en interne avec le discours d'introduction et ensuite l'atelier à mener avec les quatre questions à poser pour atterrir sur la mission. Merci beaucoup, Pascal. Non, mais plus sérieusement, si on regarde maintenant le résultat, parce que c'est vrai que c'est un résultat qui vous est propre. Qui est très identitaire. Alors je vais me permettre de lire la raison d'être. Je cite, nous élaborons avec soin et audace des recettes gourmandes pour vous nourrir au quotidien dans une ambiance chaleureuse. Entreprise régionale, nous sommes mobilisés pour accompagner notre entourage et soutenir notre territoire. Au travers de cette raison d'être, qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir?
Pauline, elle se marre.
Je pense qu'il y avait, pour moi, il y avait plusieurs messages. Je pense qu'il y a un mot qui est vraiment clé dans cette raison d'être, c'est soin, le soin. Nous élaborons avec soin. Je pense que c'est prendre soin de nos collaborateurs, prendre soin de nos clients, prendre soin de notre territoire. Et je trouve ça très beau pour une entreprise qui nourrit les gens. Parce que nourrir, c'est un besoin vital, mais on a bien vu les dérives de la consommation de masse. On peut aussi se faire du mal en mangeant. Et je pense que cette notion de soin, pour moi, elle est assez centrale à la panière. Prendre soin des autres par ce qu'on leur propose au quotidien. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment très, très important et c'est ressorti à travers tous les ateliers.
Il n'y avait pas d'idée particulière C'est simplement d'essayer d'être le plus fidèle à ce qu'on est vraiment. Et moi, je suis très fier du boulot qui a été fait, qu'on a fait, qu'on a finalisé en comité de direction pour réussir à caler les bons mots. Et c'était un chouette exercice.
Je pense que on a pu mesurer à quel point on était effectivement alignés lorsqu'on est revenu vers les équipes. On leur a dit ce qu'on a pondu entre guillemets grâce à toute la matière grise que vous nous aviez apportée. Et en fait, quand je me baladais dans les magasins ou dans les ateliers de production, je leur montrais la raison d'être et je crois qu'à chaque fois ils me regardaient en me disant oui, c'est nous, quoi. Enfin voilà. Et bon, là, on savait que c'était bon, en fait. Parce que je trouve qu'il y a des raisons d'être qui sont très belles, mais un peu conceptuelles parfois. Et je pense que si les gens, jusqu'à la petite vendeuse dans le magasin, le boulanger, si les gens ne se reconnaissent pas dedans, ça n'a aucun sens, quoi. Alors que là, vraiment, je crois vraiment que tout le monde peut y trouver son métier et son travail, ouais.
J'avais eu connaissance d'une version précédente de la raison d'être il y a quelque temps, qui a pas énormément changé hein, par rapport à celle-ci. Mais il y a un mot que je trouvais assez intéressant, c'était le terme d'audace. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais pourquoi avoir choisi ce terme?
Parce que on n'hésite pas à un certain moment faire des choix, en fait. Faire des choix de produits, de... Bon, un petit exemple, dans le coin, hein, pas, on n'a rien inventé, mais moi j'ai beaucoup de mes collègues qui sont mis à vendre des burgers parce que le burger c'est un sandwich comme un autre et pourquoi pas dans les boulangeries, on a un système pour chauffer, etc. moi, j'ai choisi plutôt de faire des salades graines, des quinoa et compagnie, et d'avoir des produits un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus équilibrés que certains sandwichs, parce que voilà, c'est mes convictions. Puis même à titre perso, j'essaie de faire à peu près attention à ce que je mange. Et du coup, combien de fois on m'a dit burger, j'ai dit non, on va pas faire des burgers, je le sens pas du tout. Et on est parti sur un produit un peu typé qui a très bien marché. Bon, j'ai essayé aussi des trucs qui n'ont pas marché du tout. Pourquoi pas essayer? On a fait des boissons maison, une boisson un peu type carcadé là avec hibiscus. On s'est amusé à faire des choses un petit peu audacieuses, voilà.
D'accord, ok. Après, c'est intéressant donc vous avez 5 objectifs, ce qui est quand même beaucoup hein, pour tous les suivre, mais heureusement que tu es là, Pauline, pour assurer le suivi de tout ça. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments dont on a pas mal parlé en fait pendant cet échange, que ça soit sur l'accueil et donc l'attention aux clients, que ça soit sur la qualité des produits avec des ingrédients nobles. Que ça soit sur la partie de solidarité, favoriser l'autonomie. Après, il y a la question de la relation durable avec les partenaires et les fournisseurs que vous pouvez avoir, et cette notion de réduction de l'impact environnemental en maîtrisant nos consommations et en diminuant nos déchets et en menant des activités de sensibilisation. Tous ces chantiers-là, est-ce que c'était des chantiers? Alors certes, on en a déjà parlé, donc j'ai un tout petit peu la réponse, mais est-ce que c'était des chantiers un peu nouveaux ou au contraire, c'était uniquement pour consolider ce que vous aviez déjà? Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous voyez la suite, c'est-à-dire faire en sorte que les collaborateurs soient aussi force de proposition?
Non, en fait, on n'a fait que formaliser ce qu'on faisait déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et c'est quand même un point important parce que on a eu un petit passage quand on a lancé ça avec Pauline au niveau du CODIR, et c'était légitime de dire qu'est-ce qu'ils sont encore en train de nous rajouter, quelle couche on est en train de remettre dans le management, dans la conduite de l'entreprise. Et j'ai senti que il y avait un petit flottement. On savait pas trop comment on allait animer ça au quotidien. Et en fait, on a fait le travail raison d'être et les engagements. Les engagements, on n'a fait que formaliser ce qu'on fait déjà et tout étant à améliorer, bien évidemment. Très vite, moi, je me suis dit, mais en fait, ça va nous. C'est avec ça qu'on va faire notre feuille de route. Ça sert à rien d'aller chercher d'autres éléments pour définir la feuille de route, les objectifs de l'année, les grandes décisions qui animent la vie de l'entreprise. Et du coup, on s'est dit, on va mettre ça au centre parce que de toute façon, c'est nous, c'est ce qu'on fait déjà, et puis c'est ce qu'on a envie de développer, d'améliorer. Voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais. Juste, c'est vrai que, comme dit Pascal, et moi j'ai trouvé ça assez, c'était important cette étape de changement d'état d'esprit où au CODIR on s'est posé et on s'est dit, les objectifs, la opérationnelle, la feuille de route opérationnelle pour les 2 ans à venir, pour faire vivre chacun des engagements, en fait c'est les objectifs d'équipe. Enfin. Voilà, c'est tout est là, quoi. Et de ce fait-là, de se dire, on peut aller chercher la performance économique de l'entreprise à travers ces engagements-là, ça fait sens. Et pour ça, comme dit Pascal, les gens avaient l'impression que peut-être la société à mission, ça allait être une couche de plus. Mais en fait, non, c'est juste qui on est et comment on veut mener le business aussi, en fait, en fin de compte. Donc, oui, effectivement, ça formalise, mais comme je le disais tout à l'heure, on passe la seconde aussi, en fait. Ça veut dire que maintenant, vraiment, dans chaque engagement, on va plus loin, par exemple, sur la recherche d'ingrédients nobles. L'un de nos objectifs, là, pour les 2 ans à venir, c'est améliorer la part de saisonnalité des recettes. Voilà, on était déjà pas mal, mais là, on se gratte la tête. Comment est-ce qu'on enlève la tomate du sandwich ou de la salade César l'hiver? Bon.
Ah, si alors là... Franchement, mais donner la recette à tout le monde, là.
Voilà. Non, mais tout en maintenant des prix justes, parce que vous passez sur une tomate séchée, c'est pas le même prix. Donc, et en fait, oui, il y a de quoi nourrir ces 5 engagements-là qui sont là depuis 30 ans. C'est infini, en fait, le champ des possibles. Et puis, comme disait Pascal, on entre aussi un petit peu dans cette notion d'audace, il y a la notion de renoncement. Et ça, c'est d'autant plus important. Et un objectif de renoncement, il est d'autant plus difficile à tenir. Donc, non, vraiment, c'est vrai que c'est un formidable moteur au quotidien pour les objectifs des équipes. Ouais.
Alors, si vous faites des recettes avec des sandwichs où on enlève la tomate l'hiver, s'il vous plaît, communiquez-la au plus grand nombre. C'est un combat que je mène, effectivement, parce qu'en plus, les tomates d'hiver ne sont pas bonnes. Donc, c'est ça. Des sandwichs qui ne sont pas bons. Alors, peut-être une dernière question sur la société à mission. Vous êtes passé maintenant société à mission en mai, donc ça reste récent. La première réunion du comité de mission a eu lieu il y a quelques jours, hein, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous l'avez réunie? Comment vous l'avez constitué et qu'est-ce que vous en attendez?
Le comité de mission, en fin de compte, on a fait un petit peu un appel à candidats. Lorsqu'on a terminé la rédaction de la raison d'être et des engagements, on est revenu vers toutes les personnes qui avaient participé aux ateliers collaboratifs d'intelligence collective et notamment la cinquantaine de partenaires. On est revenu vers tout le monde via un sondage en leur disant bah, voilà ce qu'on a pondu, est-ce que c'est aligné avec ce qu'on s'est dit dans les ateliers. Et à la fin de ce sondage, il y avait une question, voilà, est-ce qu'on ouvre un comité de mission, voilà en quoi ça consiste, si vous êtes intéressé, candidatez. Et en fait, on a eu pas mal de candidats, notamment à travers nos partenaires, et pour nous c'était une évidence qu'ils devaient faire partie de notre comité de mission. On avait 2-3 autres personnes, notamment du cercle d'entrepreneurs avec qui Pascal peut travailler et donc qui aussi nous paraissait intéressante. Et finalement, on a réussi à regrouper autour de la table une dizaine de personnes qui représentent bien notre chaîne de valeur. À la fois, ça va de la coopérative agricole aux distributeurs, frigoristes, puisque comme Pascal a expliqué, on travaille en cru surgelé. Donc pour nous, la chaîne du froid, c'est un vrai enjeu et c'est aussi un enjeu énergétique, parlons-en. On a autour de la table l'une des entreprises qui collecte nos déchets, donc une bonne connaissance de toute cette notion-là autour du déchet et du territoire. Et puis des personnes aussi qui sont sensibles à ces notions de management libéré. Et voilà, vraiment, finalement, on a regroupé les gens assez naturellement. Et le premier comité de mission a eu lieu en juillet. Et c'était vraiment un très beau moment. Les gens, je pense, étaient déjà honorés d'en faire partie. Ils se mettent la barre très haut parce qu'ils savent que c'est la panière, donc il va falloir carburer. Et ils sont déjà posés plein de questions sur comment ils voulaient avancer. Ils ont montré vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et à la fin des 2 heures, tout le monde se tutoyait et tout le monde se sentait vraiment à l'aise pour discuter. Donc c'était... je pense que ce comité de mission, c'est un peu le comité des sages. Ça va être vraiment une expérience passionnante, un nouvel organe de gouvernance de l'entreprise qui va être, je pense, source d'inspiration.
D'accord, c'est intéressant. Je serais curieux de voir un petit peu comment ça se développe, effectivement. Traditionnellement, je finis par quelques questions un peu plus personnelles. Donc, je vais commencer par toi, Pascal. Donc, La Panière, c'est une entreprise familiale que tu as montée avec ton père. Alors, je sais que ton fils est dans l'entreprise, mais pas tout à fait, puisque il a son affaire sur Paris aussi. Comment est-ce que toi, parce que on va dire que tu as un âge où tu peux te poser la question de la transmission. Comment est-ce que tu envisages la transmission? Est-ce que tu souhaites que l'entreprise reste familiale? Parce qu'on sait que, enfin, c'est un chiffre, on l'a jamais prouvé, mais bon, c'est un chiffre qui marche bien. On dit que ça prend 10 ans pour faire une bonne transmission. Donc, comment est-ce que tu envisages la suite de La Panière? Plutôt entreprise familiale, pas forcément.
Avant de répondre directement à ça, moi, je suis issu de famille d'entrepreneurs. J'avais mes deux grands-pères paternels et maternels avaient des PME, des petites PME. Mais voilà, donc j'ai bien assisté dans la famille avec tout ce qui touche à la transmission et puis les difficultés autour de ça. Et puis j'ai souvent vu autour de moi des copains, des collègues entrepreneurs avec aussi cette problématique de la transmission des enfants, ton fils, ta fille, elle va faire ci, ah ben moi il va reprendre, etc. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a avec qui je me suis super bien entendu et qui m'a fait confiance en fait, qui m'a partagé son expérience d'entrepreneur, pas de boulanger parce que lui était meunier, mais d'entrepreneur. Et je l'ai dit au départ, je l'aurais pas eu, j'aurais jeté l'éponge quoi, parce que psychologiquement c'était compliqué pour moi quand j'avais 24 ans. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a assisté, qui m'a aidé, mais qui m'a laissé faire. J'ai fait mon entreprise avec son aide. C'était une vraie chance. Et je me suis dit, j'ai un seul fils. Si j'arrive à faire ça, ce serait chouette. Donc, je me suis totalement détaché de dire mon fils reprendra. J'ai trop entendu de copains, de collègues en disant, moi j'ai fait ça pour mes enfants. J'ai dit, rien du tout, rien du tout. On fait ça pour soi, et de dire qu'on fait ça pour ses enfants. Non, les parents ont un autre rôle que de donner des entreprises à des enfants. On va pas le développer maintenant. Mais j'ai toujours été clair avec mon fils et clair aussi avec moi-même pour me dire mon objectif c'est que mon fils réussisse sa vie au sens large et sa vie professionnelle et du coup puisse réaliser son projet et du coup c'est ce qui se passe, c'est que moi aussi je l'ai aidé, je l'ai conseillé sur certains aspects et du coup il monte une boulangerie hein. Bon, j'y peut-être pour quelque chose mais je l'ai aidé à sur les aspects techniques, juridiques, un peu financiers c'est son projet à lui, c'est son idée à lui, c'est ses choix à lui j'ai toujours resté bien bien en retrait de tout ça parce que ça c'était sa partie donc c'est la première chose. Julien ne reprendra, à moins qu'il change d'avis un jour s'il a envie, mais je suis très à l'aise avec le fait que moi mon challenge bien sûr c'est de réfléchir à la transmission. Mon challenge aujourd'hui c'est d'essayer de transmettre et sans que l'entreprise perde son âme et ses valeurs et que se transforme en pompe à fric ça se passe dans certains univers.
Et quelque part, je pense que je me permets d'ajouter juste le fait que, à nouveau, la société à mission, finalement, ça permet quand même pas mal de sanctuariser l'âme de l'entreprise, parce que qui que ce soit qui reprendra la société dans les années à venir, dans le futur, reprendra une société à mission qui a une raison d'être et qui a des engagements. Donc je pense qu'effectivement on n'en a pas parlé jusque là, mais quelque part ce statut juridique il est important aussi pour des entreprises familiales locales pour s'assurer que effectivement l'ADN qui avait été développé par les pères fondateur entre guillemets, il puisse être conservé dans le temps.
Je crois beaucoup à cette possibilité-là qu'offre la société à mission dans le cas des transmissions de pérenniser un projet et pérenniser l'âme d'une entreprise. Je te rejoins là-dessus, Pauline. Alors justement, Pauline, toi de ton côté, je le disais en introduction, tu as fait une sacrée reconversion quand même en 2019, après une dizaine d'années dans la R&D. Pourquoi ce choix et comment tu t'y es pris ?
Moi, c'est vrai que je baignais dans le monde de la R&D, donc dans la recherche pharmaceutique. Alors sur le papier, c'est très louable. En plus, je travaillais sur des maladies génétiques rares, donc c'était passionnant. Je travaillais avec une équipe vraiment très impliquée. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai découvert un peu les failles aussi, hein, derrière ce monde-là, qui est quand même régi par beaucoup d'argent, des actionnaires. C'est la course, toujours la course au brevet, comme tu disais au début de l'entretien, la course au papier, à la publication. Et c'est aussi un domaine où on utilise beaucoup de consommables et j'étais vraiment écœurée de la quantité de déchets qu'on produisait tous les jours. Par ailleurs, on me demandait beaucoup de voyager pour aller dans les congrès les plus importants au Japon, aux États-Unis, voir les clients. Enfin bref, j'arrivais à un point où je sentais que j'étais plus vraiment alignée. C'était l'époque 2015-2016 où on commençait à avoir des films comme En quête de sens, Demain. J'allais au ciné, je me disais « Waouh !» et tout, il se passe quelque chose là. Comment ça se fait que j'ai le cœur qui batte aussi fort ? Il y a vraiment des choses qui sont importantes et qui se disent dans ces films-là. Et puis, je pense que c'était aussi un peu la trentaine, donc un moment de ma vie où j'avais envie de fonder une famille, d'aller habiter à la campagne. Donc, je pense que c'est un tournant qui a pris du temps. Tu peux pas te reconvertir comme ça du jour au lendemain et dire « Ah bah ça y est, faut que je donne du sens à mon boulot ». Ça se mûrit avec ton entourage, avec ta famille, c'est un projet de vie, quoi. Et de ce fait-là, j'ai décidé de quitter la sphère des biotechs où j'avais quand même bien… Je n'ai pas regretté, c'était un super chapitre de ma vie. Et j'ai décidé de me tourner vers le développement durable. Et j'avais la chance d'avoir déjà en poche un diplôme d'ingénieur, donc d'avoir la possibilité de raccrocher un master d'ingénieur aux arts et métiers, qui travaillait sur l'analyse de cycle de vie des produits, la conduite du changement d'entreprise. Ça a été, en 2019-2020, une année formidable où j'ai ouvert les yeux, j'ai rencontré plein de gens, c'était super, j'ai appris plein de choses. Et puis, la vie ensuite est faite de rencontres. Et puis, la rencontre, ça a été la panière, Pascal et l'équipe toute l'équipe. Et ensuite, quand tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, ça déroule, quoi. C'est-à-dire que Pascal m'a donné tout de suite aussi sa confiance. Et j'avoue que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'avais carte blanche pour dérouler cette démarche d'entreprise à mission. Et le fait est j'en suis très fière. Je suis très fière de cette aventure. Et je suis très fière des choix que j'ai faits. Ça demande effectivement des renoncements. C'est sûr que je ne touche pas le même salaire que j'avais dans l'industrie pharmaceutique, mais je suis mille fois plus heureuse. Et comme je dis souvent aux gens, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. J'ai juste l'impression de vivre ma vie, en fait, quand je suis ici. Donc, c'est le plus beau cadeau, quoi.
C'est formidable. c'est formidable. Alors on va passer à l'instant musical pour finir cet épisode. Hein. Donc je finis toujours les épisodes par le coup de cœur musical de l'invité. Pascal, c'est quoi ton coup de cœur musical ?
Eh ben moi c'est un morceau d'un groupe que tu connais qui s'appelle Grand Brother, qui est parce que j'ai vu que tu avais dans une des dernières lettres aussi parlé de ce groupe, mais c'est pas le même morceau que toi. C'est un morceau qui s'appelle Blood Flow et je trouve qu'il transmet un petit peu le temps qui passe et puis avec une certaine résonance dans le morceau. Je trouve que c'est un morceau sur lequel on arrive un peu à méditer un petit peu sur ce qui se passe et puis aussi un peu sur l'urgence de certaines décisions à prendre.
C'est une de mes dernières découvertes. Je connaissais pas ce groupe avant de voir le film Hors Normes, mais c'est vrai que je l'écoute beaucoup maintenant et je suis assez d'accord avec toi. C'est une musique qui est très très bonne pour méditer. Donc on va l'écouter. Et alors toi, de ton côté, Pauline, quel est ton coup de cœur musical ?
Alors moi, c'est amusant parce que je fais pas mal de voitures pour venir au boulot et j'écoute beaucoup de musique, très fort. J'aime écouter la musique très très fort dans ma voiture. Et un morceau qui m'a pas mal entraînée, donné de l'élan quand je faisais cette démarche là pour devenir société à mission, c'est un morceau, en fait, c'est une collaboration entre le pianiste Sofiane Pamar et puis le musicien, enfin plutôt de musique électronique, Voracles. Ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle By the Brook. Et qui est aussi, pour moi, quand tu écoutes ce morceau, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est un peu comme le ruisseau de la vie qui coule avec ses hauts et ses bas. Donc, c'est en tous les cas, il a beaucoup rythmé la démarche entreprise à mission dans ma voiture.
Bah, parfait, alors c'est très approprié. On va l'écouter aussi. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cet échange qui était très riche, un peu plus long que prévu, mais qui était très riche, très dense et surtout qui raconte à la fois l'histoire d'une entreprise qui est bien ancrée dans son territoire et comment elle est passée société à mission, et puis surtout la projection, l'idée aussi de d'impliquer davantage les collaborateurs et cette idée de pérenniser aussi un projet dans le temps. Donc je trouve que c'est hyper inspirant et j'espère que ça donnera des idées à d'autres entreprises. Donc merci beaucoup à vous deux et je vous dis à bientôt.
Merci.
Merci de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si vous avez des invités que vous souhaitez me recommander, que ce soit des entreprises ou des experts, ou si vous souhaitez échanger sur la société à mission, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet lamachineasens.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.